Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, si les animaux ont une mémoire, il en est de même pour les végétaux. Alors effectivement, le terme de mémoire est à mettre entre guillemets puisque l'on pourrait plutôt parler de stimuli à l'environnement. En d'autres termes, les plantes sont réceptives aux facteurs qui les environnent. Et comme le dit Michel Tellier, qui nous a d'ailleurs rejoint en studio, l'expression qui qualifie les personnes de légumes, car insensibles au monde extérieur, est finalement une expression incorrecte. Michel Tellier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes membre de l'Académie des sciences et également membre de l'Académie d'agriculture, professeur émérite à la Faculté des sciences de Rouen et ancien directeur du laboratoire Échanges cellulaires, signaux et régulation, qui était donc un laboratoire associé au CNRS et qui est maintenant dirigé par votre collègue Camille Ripoll. Vous avez coordonné avec votre confrère Georges Pedro une séance commune de l'Académie des sciences et de l'Académie d'agriculture sur la sensibilité des végétaux aux stimuli de l'environnement. Et dans cette émission, nous allons donc revenir plus en détail sur un sujet qui peut donc paraître curieux et qui n'est pourtant pas tant que ça, la mémoire des plantes. Et nous parlerons des mécanismes qui enclenchent le processus d'adaptation d'une plante à son environnement, de l'intérêt de ces connaissances pour les biologistes. Et puis, avant toute chose, comment prouver que les plantes s'adaptent à l'environnement. Mais tout d'abord, Michel Tellier, pour débuter cette émission, peut-être faut-il faire la différence entre la mémoire des êtres vivants, des animaux et des hommes que nous sommes, et la mémoire des plantes.
Indiscutablement, c'est-à-dire que pour parler de mémoire végétale, il faut, comme vous l'avez dit, quand même mettre des guillemets. En effet, en quelques mots, bon, la mémoire des humains et des animaux supérieurs, on sait ce que c'est compliqué d'ailleurs. Certains ont étudié la mémoire des animaux inférieurs, et dans ce cas-là, ces mémoires étaient toujours testées par des réponses de comportement de ces animaux et l'implication du système nerveux des animaux dans ces processus. Or, les plantes n'ont ni système nerveux, ni à proprement parler de comportement. Donc, au sens qu'on donne aux mémoires animales, ça ne serait pas utilisable pour les végétaux. Cela dit, les végétaux, bon, vous l'avez rappelé, sont, et puis on en reparlera, les végétaux sont sensibles à certains signaux de l'environnement auxquels elles répondent par des modifications de leur métabolisme ou de leur, on dit, leur organogénèse, c'est-à-dire la façon dont elles se développent, dont elles croissent.
Une réponse sur plusieurs générations, je suppose ?
Non, la façon dont une plante se développe, ça ne s'inscrit pas dans les gènes. C'est-à-dire, c'est vraiment la réponse de la plante aux conditions qui lui sont imposées.
C'est par exemple les plantes que l'on trouve sur la pointe du rat ?
Voilà, par exemple, qui sont dans une zone très ventée et qui restent naines, tout en étant parfaitement saines. Si vous prenez une de ces plantes et que vous la repiquez dans un milieu qui est moins venté, elle poussera beaucoup plus. Donc, en fait, si vous voulez, je pense qu'il faut partir déjà de la notion de sensibilité des végétaux aux signaux de l'environnement, et on verra comment, dans certains cas au moins, l'information correspondant à la réception de ces signaux par les végétaux peut être stockée et, si on veut le dire, mise en mémoire, entre guillemets.
Les stockages rappels de signaux, hein, c'est
voilà.
Ça le terme exact.
Ah ben, un stockage implique un rappel. Si c'était simplement stocké mais qu'on puisse pas le rappeler, on n'aurait aucun moyen de détecter que ça a été stocké.
Alors, comment les chercheurs ont pu prouver que les plantes réagissaient à des stimuli ?
Alors, ça, c'est assez facile. Il y a des observations comme celles que je vous indiquais.
Oui.
Il y a aussi le fait que si vous regardez un arbre dans une région très ventée, vous rendrez compte que les branches du côté du vent dominant ont poussé moins que les branches qui sont protégées de l'autre côté, qui se sont étendues beaucoup plus. Donc ça, que les plantes s'adaptent aux conditions de l'environnement, c'est un fait d'observation. Maintenant, ça a été étudié en laboratoire, dans des conditions, alors là, contrôlées. Et par exemple, celle dont Camille Ripoll a parlé dans la présentation que nous avons eue il y a peu de temps à l'Académie, c'était le cas de jeunes plantes de lin que l'on soumet à différents signaux, qui peuvent être un simple contact, une manipulation, ou du vent, ou un choc de froid, enfin différents signaux de ce type-là. Et ce qui se passe alors, c'est que la plante peut réagir en fabriquant des méristèmes, c'est-à-dire des ébauches de bourgeons, dans son hypocotyle. L'hypocotyle étant la sorte de tige qu'il y a entre les toutes premières feuilles, qu'on appelle les cotylédons, et les racines.
Vous voulez dire en fait que ça incite la plante à produire d'autres branches ou d'autres feuilles en fonction du stimuli qui lui est porté ?
Oui, si on la laisse pousser. En fait, on ne s'intéressait pas à la suite de la croissance, on s'intéressait juste au phénomène que l'organogénèse était modifiée et que la plante se mettait à fabriquer des quantités de méristème là où d'habitude, quand on ne lui impose aucun signal extérieur, elle n'en fabrique pas du tout ou très très peu.
Par exemple, en prenant une graine de lin, en la laissant pousser, si on lui met beaucoup de vent, par exemple, on va se retrouver avec pas mal de petits méristèmes.
Voilà.
Au niveau de cette
de
première...
Mais peut-être pour introduire ça, d'ailleurs dans la logique des expériences qui ont été faites, bon, il faut peut-être partir de la sensibilité, c'est ce qu'on vient de dire, hein, que les plantes peuvent réagir aux signaux de l'environnement par des modifications visibles de croissance. Dans certains cas, la modification se fait à l'endroit qui a été stimulé. Un exemple très connu, très caractéristique de ça, c'est ce qui se passe avec la bryone. Les bryones, beaucoup de gens les connaissent, même sans savoir éventuellement leur nom, mais ce sont ces plantes un peu molles, qui par elles-mêmes ne se dresseraient jamais, mais qui poussent dans les buissons, hein, et qui font des petits fruits dans les buissons. Bon, ces bryones, si on excite un des entre-nœuds terminaux, tout à fait à l'endroit où c'est en train de pousser.
Oui.
Et une excitation très douce, hein, ça peut être simplement passer un pinceau quelques fois sur l'entre-nœud. Cet entre-nœud va avoir une croissance beaucoup moins grande qu'un entre-nœud non stimulé.
Comme si quelque chose gênait la plante et l'incitait à développer des feuilles et des branches ailleurs.
Ah non, non, pas du tout. Là, c'est une réponse locale. C'est-à-dire, on a stimulé cet entre-nœud, il cesse de croître. Il ne va pas croître autant que les entre-nœuds non stimulés. Donc, la réponse peut très bien être locale, mais la réponse peut être déconnectée dans l'espace. Vous avez des situations où on fait la stimulation à un endroit et où la réponse se fait ailleurs. C'était le cas qu'on citait avec cela. Si vous faites des stimulations mécaniques sur le haut de la plantule, hein, sur la partie où il y a les petites feuilles qui commencent à se développer, les méristèmes apparaissent beaucoup plus bas sur l'hypocotyle. Ça signifie qu'il a bien fallu qu'un message passe de la zone stimulée jusqu'à la zone réactive.
Alors justement, comment passe ce message puisqu'il n'y a pas de système nerveux de la plante ?
Voilà, oui, il n'y a pas de système nerveux proprement dit. Il n'y a pas l'équivalent des neurones, de cellules
et des
spécialisées.
Synapses, bien sûr.
Voilà. Avant, peut-être historiquement, cette histoire de transport de messages dans la plante, ça a été très bien mis en évidence par Roger Gautret, l'homme qui ensuite a inventé la culture des tissus végétaux, et qui est resté célèbre surtout pour ça. Mais il avait d'abord étudié ce phénomène de transport de signaux, et à l'aide d'un ensemble expérimental très simple, il prenait une plante, il la faisait pousser dans des conditions où elle était aussi peu stimulée que possible, et avec une petite lunette, il visait la pointe de la racine, qui est la zone en croissance de la racine. Et il mesurait tout simplement la vitesse de croissance de la racine. Puis, au collet de la plante, il la pinçait légèrement, mais sans lui faire de mal, sans même la broyer. Et il observait que, très peu de temps après, quelques secondes après, la croissance de la pointe était modifiée.
Quelques secondes.
Oui. Donc, il y a un message. Et vous voyez qu'une manip comme ça permet même de calculer la vitesse de transport du message.
Est-ce que ce message passe par le biais de la sève ? Comment ça se déroule ?
Il y a encore des disputes à ce sujet-là. Ce qui est indiscutable, c'est que quand on fait une stimulation, ça n'avait pas été étudié dans le cas de Roger Gautret, mais ça a été étudié après dans un très grand nombre de cas. Quand on fait une stimulation comme celle-là et que la réaction est ailleurs dans la plante, donc que ça implique un transport de message, il y a une onde de dépolarisation électrique qui est associée. De là à dire que l'onde de dépolarisation électrique transporte le message, bon, c'est probable, mais ça n'est pas absolument sûr, parce que quand on regarde le détail de ce qui se passe, il y a parfois des choses qui grincent un peu. Au passage, cette onde de dépolarisation, bon, il n'y a pas de neurones, mais elle passe quand même par des cellules particulières qui sont les cellules du phloem, c'est-à-dire ce qui véhicule la sève dite élaborée, celle qui revient des feuilles. Donc c'est une première possibilité, une onde de dépolarisation électrique, et ça ressemblerait donc en plus fruste à ce qui se passe avec les cellules différenciées des animaux, les neurones.
Alors pourquoi cette première hypothèse est discutée?
Je vous dis, parce que dans les détails, ça ne marche pas toujours très bien. Alors certains ont proposé que ce soit des molécules qui servent de signal, des molécules spécifiques. Alors ça ne peut pas être une simple diffusion, parce que là les ordres de grandeur ne conviennent pas. Hein, c'est trop lent, la diffusion, pour interpréter ces signaux-là. Mais si ce sont des molécules qui sont emportées dans le flux de sève, alors là, ça peut être possible. Et une molécule, bien sûr, il y a des molécules signal, c'est bien connu. Une troisième possibilité qui a été défendue par certains, c'est que ce soit une onde de pression qui se propage.
Alors peut-être que ces trois hypothèses sont valables selon les plantes.
Oui. Et selon puis peut-être bien qu'elles sont valables les trois à la fois, et dans certaines conditions, que ce soit plutôt l'une ou plutôt l'autre.
Mais actuellement, nous n'en savons pas plus.
Quand même, la signalisation électrique, mais c'est peut-être simplement parce qu'elle ressemble à la signalisation des animaux. Il y a certainement actuellement un plus grand nombre de gens qui sont en faveur de la signalisation électrique.
Alors je vous propose de marquer une courte pause, Michel Tellier, et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission Éclairage. À tout de suite.
La médiathèque de Canal Academy, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme? Vous avez apprécié cette émission? Vous aimeriez réentendre cet académicien? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Academy. Le téléchargement est gratuit.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Michel Tellier, membre de l'Académie des sciences et membre de l'Académie d'agriculture. Avec vous, Michel Tellier, nous parlons de la mémoire, mais nous l'avons bien compris, mémoire entre guillemets des plantes. Et dans la première partie de l'émission, vous avez évoqué un terme qui est donc plus exact, c'est stockage, rappel, de signaux. Alors peut-être nous pourrions en parler maintenant un peu plus profondément. Qu'est-ce que l'on met sous ce terme?
Voilà, on a dit tout à l'heure que la réponse pouvait être déconnectée dans l'espace, c'est-à-dire que se faire à un endroit différent de l'endroit qui a été stimulé. Il arrive aussi que cette réponse soit déconnectée dans le temps. Et précisément, si on reprend l'exemple dont on parlait tout à l'heure, des plantules de lin à qui on fait une stimulation mécanique. En réalité, pour que cette stimulation mécanique provoque l'apparition des méristèmes, il faut aussi faire subir à la plante un temps relativement court, un jour ou deux ou trois jours, de privation de calcium. Si on fait seulement la privation de calcium, il n'apparaît pas de méristème. Si on fait seulement les stimulations abiotiques, il n'apparaît pas de méristème. Si on fait les stimulations abiotiques et la privation de calcium, là, la plante développe
des méristèmes,
et parfois en quantité, hein, ça peut être plusieurs dizaines. Donc, en quelque sorte, vous voyez qu'on a le stockage du signal abiotique et la privation de calcium est en quelque sorte ce qui met la plante en état de rappeler ce signal pour l'exprimer, effectivement, par la production de méristèmes. Supposez maintenant qu'au lieu de faire la privation de calcium au moment où on a fait le signal abiotique, on la décale. Et qu'on la fasse 3 jours après, ou 4 jours après, 8 jours après, 12 jours après. Eh bien, on constate que la cinétique d'apparition des méristèmes sera la même. Si vous regardez à la fin de la privation au calcium, le jour suivant, vous allez compter qu'il y a en moyenne 3 méristèmes par plante, puis 3 jours après, qu'il y en a 7, puis qu'il y en a 15, etc. Donc, vous avez une cinétique. Les méristèmes n'apparaissent pas tous en même temps, mais ils apparaissent au cours du temps. Donc cette cinétique, la courbe d'apparition des méristèmes au cours du temps reste la même, mais elle est décalée. Exactement, si vous avez décalé de 4 jours la privation de calcium par rapport au signal mécanique, l'apparition des méristèmes est décalée de 4 jours. Si vous avez décalé de 8 jours, elle est décalée de 8 jours, etc.
Donc, pour le coup, elle garde, elle voilà. a cette notion de mémoire.
Donc, vous voyez, ça signifie que le message, que l'information qui avait été apportée à la plante par le signal mécanique est restée, entre guillemets, en mémoire, en tout cas stockée quelque part dans la plante, sans s'exprimer, mais que... Une fois que la plante a été mise en état de l'exprimer par la privation de calcium, alors là, tout se passe normalement. Donc, qu'une information peut être conservée dans la plante.
Ne faudrait-il pas parler de réflexe ?
Je ne crois pas, parce que là, pour le coup, réflexe, c'est vraiment les animaux. Hein. C'est une stimulation et une réponse qui ne passe pas par les systèmes volontaires. Réflexe. Non, je pense qu'il suffit de dire que l'information a été stockée et puis que dès que la plante est dans un état où elle peut faire usage de cette information, c'est-à-dire entre guillemets la rappeler, ben elle le fait et elle l'utilise dans son organogénèse.
Donc en fait, quand on parle de mémoire des plantes, c'est lorsqu'il y a une réaction qui arrive à retardement.
Qui est différée.
Voilà. Qui est différée. Mmh. Mis à part le lin, hein, qui est donc le travail sur lequel s'est penchée Camille Ripoll, quels sont les exemples que l'on voit dans la nature, par exemple ?
Alors, ces choses-là ont toujours été étudiées en laboratoire, et c'est un point sur lequel il faudra peut-être revenir quand on essaiera de comprendre à quoi diable ça peut servir aux plantes d'avoir un système de stockage et de rappel d'informations. C'est à ce moment-là que peut-être il sera le plus commode de répondre à ce genre de questions. Maintenant, d'autres exemples, oui. Initialement, si vous voulez, tous ces travaux avaient été faits en relation avec un laboratoire de Clermont-Ferrand et avec Marie-Odile Desbiers, qui était une expérimentatrice absolument remarquable. Et l'un des systèmes qu'elle avait étudié, qui peut s'expliquer aussi très simplement, était le suivant. Si vous prenez, alors, dans son cas, c'était des petites plantules de bidon, hein, bidens en latin.
Oui.
Et si vous faites des stimulations qui sont, par exemple, des petites piqûres sur les cotylédons, c'est-à-dire les premières feuilles, celles qui préexistent dans la graine. Mais au lieu de piqûres, on peut aussi faire des stimulations mécaniques non lésantes, simplement en caressant avec un pinceau les cotylédons en question. On constate que ça tend à bloquer la croissance de l'hypocotyle. Je vous rappelle, l'hypocotyle, c'est cette sorte de tige qu'il y a justement entre les cotylédons et la
oui.
racine. L'effet ne se voit bien que si ces plantules sont mises sur un milieu très dilué, sur une solution nutritive normale contenant les sels nécessaires à l'alimentation de la plante. Cet effet mécanique ne se manifeste pas. L'hypocotyle pousse normalement. Maintenant, supposez que vous fassiez les stimulations mécaniques alors que la plante est sur son milieu nutritif et que quelques jours plus tard, vous la passiez sur le milieu très dilué, alors, à ce moment-là, ce qui reste de croissance de l'hypocotyle à faire va être bloqué. Donc là aussi, vous voyez que vous avez eu une information, mais où personne n'aurait pu dire qu'elle était là.
Hein, oui.
La plante ne manifestait aucune réponse apparente, mais arrive le deuxième signal. Et à ce moment-là, la plante l'exprime. Donc là aussi, il y a eu une information qui a été stockée.
Alors à chaque fois, on parle d'une plante unique. Est-ce que ces informations, après, elles se retransmettent de génération en génération ? En d'autres termes, est-ce que stimuli, répondre à des stimuli et adaptation à un environnement de génération, est-ce la même chose ?
Les réponses ne se transmettent pas de génération en génération. C'est-à-dire, les gènes ne sont pas modifiés par ces effets, à ma connaissance en tout cas. Je ne connais pas d'expérience mettant en évidence une modification des gènes eux-mêmes. Ce qui est modifié, c'est éventuellement l'expression des gènes, c'est-à-dire le fait que c'est plutôt telle protéine ou telle autre qui va être synthétisée.
Vous parlez d'expression de génome et non pas de modification du génome.
Hein, on modifie l'expression du génome, on modifie d'autres choses hein, aussi. Mais à ma connaissance, on ne modifie pas le génome.
Donc par mémoire des plantes, on n'entend pas forcément une plante qui s'adapte de génération en génération. Je vous propose de marquer une deuxième pause, Michel Tellier, et on se retrouve tout de suite après pour savoir à quoi servent donc toutes ces recherches en laboratoire concernant la mémoire des plantes. À tout de suite.
Thank you.
Canal Academy vous propose une nouvelle rubrique, l'Académie des blogs. On estime qu'actuellement, il s'ouvre un blog toutes les 2 secondes dans le monde et nous ne pouvions pas passer à côté d'un tel phénomène de société, surtout lorsque les académiciens s'y mettent aussi. Alors retrouvez tous les lundis un blogueur du monde de l'édition, de la presse, de l'enseignement ou tout simplement amateur de littérature pour associer l'utile à l'agréable. En compagnie de David Abiker et d'Élodie Courtejoie, nous vous emmenons à la découverte de la crème de la blogosphère.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Michel Tellier avec qui nous parlons de la mémoire des plantes. Dans cette troisième partie d'émission, Michel Tellier, effectivement, donc nous allons parler de ces chercheurs qui se penchent sur ce domaine de recherche. Mais pour en parler, lors de cette petite pause, vous m'avez précisé qu'effectivement, pour en parler, il faut évoquer le rôle du calcium et des autres rôles du calcium au niveau des plantes. Alors, je vous pose la question pour pouvoir vous lancer sur ce sujet. À quel autre moment intervient le calcium dans la stimulation des plantes ou dans la mémoire des plantes ?
Là, enfin non, vous avez raison. Il y a aussi des effets de mémoire qui ont été montrés par certains à ce niveau-là. Alors, le calcium, là, beaucoup de chercheurs ont étudié ce qui se passait au tout début, au moment où la plante reçoit le signal du milieu extérieur. Et en particulier, ça a été étudié, spécialement dans le laboratoire de Knight en Angleterre, en réalisant des plantes auxquelles on avait greffé un gène d'équorine. L'équorine, c'est une protéine particulière qui se met à fluorescer quand elle est en présence de calcium libre. Donc, ces plantes-là sont silencieuses tant qu'il n'y a pas de calcium libre en concentration importante dans le cytoplasme. Les concentrations en temps normal sont extrêmement faibles. Mais s'il y a du calcium libre dans le cytoplasme, si la concentration de calcium libre augmente dans le cytoplasme, à ce moment-là, elles deviennent fluorescentes. Et vous voyez que c'est magnifique comme système expérimental parce que ça permet de détecter l'arrivée du calcium libre dans le cytoplasme, et puis ça permet, par la cinétique d'apparition et d'extinction de la fluorescence, de mesurer le temps pendant lequel on a eu ce calcium libre dans le cytoplasme.
Et justement, alors, ça dure combien de temps, ce temps ?
C'est variable. Peu de temps, en général, c'est une affaire d'une fraction de minute ou de quelques minutes, hein, mais selon les signaux, et ça peut être un peu différent. Alors ça, je crois que tous ceux qui ont cherché à l'étudier ont trouvé qu'au début de la chaîne d'événements, il y avait cette apparition de calcium libre dans le cytoplasme des plantes qui avaient reçu un signal. Bon. Ensuite, il se passe un certain nombre de choses, dont certaines sont inconnues, allant jusqu'à l'activation de certains gènes, et en particulier d'un gène qui permet la fabrication d'une protéine qu'on appelle la calmoduline, et qui est une protéine qui interagit avec le calcium. Donc vous voyez, il y a un autre endroit au moins où intervient le calcium. Et puis, il y a ce dont on parlait tout à l'heure, le fait pour nous que pour mettre les plantules de lin en état d'exprimer l'information qu'elles ont reçue par les signaux mécaniques, il faut une privation de calcium. Donc, vous voyez, le calcium intervient en fait
il y a un rôle
à
double.
Plusieurs endroits, ben, au moins double, mm-hmm. dans la plante en relation avec ses possibilités de signalisation.
Alors, quels sont les intérêts pour les chercheurs d'en savoir plus sur ces plantes, sur ce rôle du calcium et sur la mémoire des plantes ?
Alors, ce sont deux choses différentes.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les signaux, l'effet du calcium pour recevoir le signal et la fin de l'expression, hein, c'est-à-dire la mise en marche de l'expression de certains gènes en réponse. On est très peu à étudier les phénomènes de stockage d'informations. Mais certains l'ont étudié sur des systèmes complètement différents de nous. Par exemple, chez Knight, là où ils ont utilisé cette protéine fluorescente, ils ont montré que selon l'histoire antérieure d'une plante, la façon dont se faisait l'onde de fluorescence en réponse à un signal bien déterminé n'était pas la même. Donc là aussi, en quelque sorte, la plante se rappelle, entre guillemets toujours, de stimulation antérieure pour exprimer une nouvelle stimulation.
Est-ce que ces stimulations, on peut imaginer dans le futur que ça sera une nouvelle forme d'engrais, on va dire, pour l'agriculture tout simplement ?
Alors déjà, à quoi diable ça peut bien servir à une plante d'avoir une sorte de mémorisation, de stockage et de possibilité de rappel de signaux ? Ce que l'on propose comme interprétation, c'est la suivante. Quand vous imaginez un animal qui reçoit des signaux de son environnement, qui a besoin de trouver des proies pour se nourrir et de fuir des prédateurs pour rester vivant. Lui, il reçoit des signaux et il réagit en se déplaçant. Ce qu'une plante, évidemment, ne peut pas faire. Elle est scotchée à un endroit et il faut bien qu'elle y reste. Donc, ce qu'on pense, c'est que le problème de la plante, c'est d'arriver à optimiser sa réponse à l'ensemble des signaux qu'elle reçoit et signaux qui sont décalés dans le temps. Parce qu'il est évident que si elle répondait d'une certaine façon à un premier signal, puis d'une autre façon à un autre, puis d'une troisième, elle ne cesserait pas de changer son programme de développement et elle finirait par ne pas faire du tout de réponse cohérente et lui permettant de s'adapter au mieux à ses conditions d'environnement. Or, si vous y réfléchissez, il faut bien, si la plante doit intégrer comme ça plusieurs signaux, il faut bien qu'elle ait une certaine capacité de les mémoriser pour les confronter et faire la réponse optimisée à l'ensemble des signaux et non pas à chacun séparément. Alors vous me direz, le genre d'expérience que je vous ai décrite tout à l'heure, que la plante soit capable de mémoriser une information mécanique et puis d'y répondre quand on lui fait une privation en calcium, ça ne se produit jamais dans les conditions naturelles. Alors ça, c'est vrai. Mais ce que je pense, c'est que les différents chercheurs se sont mis chacun dans des conditions de laboratoire précises et qui n'ont qu'une vue partielle du problème. Mais justement, on voyait à l'instant qu'il y a aussi des possibilités de mémorisation au niveau de l'onde de dépolarisation du calcium. C'est-à-dire que ce qu'on pense maintenant, c'est que la plante, au moins ses parties en croissance, ou la plante tout entière quand elle est très jeune, a des possibilités de stockage d'informations qui lui permettent justement de faire une réponse intégrée, adaptée à l'ensemble des stimuli, que ça, c'est un système compliqué et que selon les conditions expérimentales qu'on impose en laboratoire, on a une partie de l'histoire ou une autre. Et pour le moment, on n'a pas encore une vue complète sur la façon dont le système fonctionne en entier dans les conditions naturelles.
Alors, bien sûr, les recherches sont à faire encore. Hein. Il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine-là.
Il y a encore beaucoup de travail, oui, à faire dans ces domaines-là.
Mais je vous repose ma question.
À quoi ça sert ? Là, vous voulez dire d'un point de vue pratique. Est-ce qu'on peut...
Oui, quelles sont les applications concrètes, on va dire, dans notre vie de tous les
jours ? Alors, pour le moment, objectivement, il n'y en a pas beaucoup.
Moi, je vous parlais effectivement d'une sorte d'engrais, on va dire.
Si vous voulez, c'est presque ça. Une application, alors là, qui est déjà très ancienne, je ne sais pas, elle a au moins 20 ou 30 ans. Ça consiste à résoudre le problème des fleuristes. Quand un fleuriste fabrique des fleurs, il faut que ces fleurs aient une tige suffisamment grande, sinon elles ne sont pas belles. Il ne faut pas qu'elles aient une tige trop grande, sinon elle va casser. Donc il faut optimiser la croissance de la tige. Et ça, bon, vous pouvez le faire en sélectionnant des plantes, vous pouvez le faire en mettant les hormones qui conviennent, mais vous pouvez le faire aussi très simplement en mettant la plante sur des systèmes qui peuvent vibrer de telle sorte qu'on leur donne des stimulations mécaniques et on peut ajuster ces stimulations mécaniques de façon à obtenir juste la longueur de tige qu'il faut. Il faut évidemment expérimenter un petit peu pour mettre tout ça au point. Alors ça, c'est une première application qui marche depuis longtemps. Une autre application, mais alors là, que je ne vous garantis pas exacte parce que je n'ai pas été capable de retrouver une citation, soit une publication scientifique, soit même quelque chose dans un journal, c'était qu'il paraît qu'il y avait aux Indes une coutume qui consistait à fouetter les cotonniers à une certaine époque de leur développement,
pour activer,
ce qui permettait d'obtenir une meilleure récolte.
Pour activer une sève peut-être ou
alors,
autre.
Ça paraît fou, parce que qu'est-ce que ça peut faire de taper sur les cotonniers ? Mais ça n'est pas forcément absurde, parce que vous faites des stimulations mécaniques, et ces stimulations mécaniques, il se peut très bien que la réaction, ce soit de rendre le cotonnier plus branchu. C'est un peu ce qui se passe avec nos méristèmes
dans les plantules de lin.
Et à ce moment-là, s'il y a plus de branches, il y aura sans doute plus de fleurs et donc plus de coton. Encore une fois, je ne vous garantis pas que c'est exact, mais ça pourrait être une implication. Là, vous voyez que ces applications sont des applications de la sensibilité. Si on pouvait se servir de la mémoire, ce serait encore mieux, parce que imaginez que les plantes aient eu un signal défavorable, une sécheresse ou Dieu sait quoi. Si vous êtes capable de manipuler le rappel, ce signal-là ne se verra pas, la plante ne l'exprimera pas dans la suite de sa croissance. Et ça, Marie-Odile Desbiers, précisément, travaillait en relation avec une équipe INRA beaucoup là-dessus, au moment où malheureusement elle est décédée, si bien que elle n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à des applications réelles. Ces affaires de sensibilité des végétaux, de transport du message, de stockage éventuel du message, c'est quand même surtout une affaire de curiosité vis-à-vis des processus étranges qu'a parfois développé la nature. Enfin, qui paraissent étranges à première vue. Ils ont, comme on le disait, probablement leur logique.
Et donc une logique que l'on essaie de
Une logique d'adapter le végétal à son environnement, puisqu'il ne peut pas y échapper.
Hein? Effectivement, comme vous disiez, le végétal ne peut pas se déplacer.
Ne peut pas se déplacer, donc il faut qu'il arrive à intégrer sa réponse à l'ensemble des signaux qu'il reçoit. Et tous ces mécanismes-là vont dans ce sens.
Merci Michel Tellier de nous avoir donné toutes ces précisions. Maintenant, nous allons pouvoir faire la différence entre ce que l'on appelle la mémoire, au sens propre du terme, des plantes, des stimulations, également de l'adaptation pour ce qui est des générations, aux conditions de l'environnement. J'invite nos auditeurs à aller faire un tour sur le site internet de l'Académie d'Agriculture ainsi que sur le site de l'Académie des Sciences. Et je précise que cette émission est téléchargeable gratuitement et librement. Merci Michel Tellier de nous avoir donc donné toutes ces précisions et puis je l'espère à très vite pour une nouvelle émission.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.